C'est bon. Donc bienvenue à cette table ronde sur l'illustration et la BD. Alors moi j'ai voulu organiser ce débat pour parler un peu des choses que j'aime bien, les comics, donc la BD américaine, anglophone d'une manière générale, la BD franco-belge et les mangas. Et donc je me demandais sous quel angle aborder ça. Donc j'arrivais pas trop à trouver quelque chose. Donc finalement je me suis arrêté sur une formulation. Donc comment se sont construits ces trois pôles de BD, puisqu'on a vraiment l'impression qu'il y a trois pôles en général. Donc après c'est ma vision peut-être naïve des choses, on aura l'occasion de sans doute d'y revenir. Donc comment se sont construits ces trois pôles de BDesque de l'imaginaire, parce qu'on va parler de fantasy et de science-fiction, qui envahissent aujourd'hui nos rayons. Pourquoi ont-ils autant de succès? Quels sont leurs points forts, leurs points faibles, et quels sont leurs publics? Donc on va voir un peu comment va s'articuler la discussion. Et donc je voulais parler, tout en jonglant un peu entre ces trois domaines, parler des sources d'inspiration de ces BD, les repères historiques, les thèmes de prédilection, les styles de dessin, les écoles, en quoi aussi les formats, parce que chaque type de BD a un peu ses formats de prédilection, en quoi ils influencent sur la dynamique ou le scénario, le style de dessin, enfin comment tout ça s'articule. Parler des scénarios aussi qui sont utilisés et puis de la distribution. Voilà, donc ça fait beaucoup de choses, on va voir comment c'est un peu ouvert. Donc pour participer à cette table ronde, donc j'ai juste à ma droite Marcus Lesch, qui est bouquiniste depuis 30 ans, spécialisé dans la BD, la SF, les polars et l'import de comics. Donc il a édité de nombreux fanzines, dont un de BD qui s'appelle World, et un sur les comics, Pirates, et il a consacré plusieurs gros dossiers à des dessinateurs dans les Lames Vorpal, Antonio Parras, Victor de la Fuente, Lugui. Voilà, il est aussi l'auteur du roman Péronique Lidio aux éditions Eon, et de nombreuses nouvelles parues en revue et en anthologie. À ma gauche, donc j'ai Laurent Chiesi, qui est scénariste, traducteur et romancier. Donc il a publié deux romans, Neurotwisting au Mouton électrique, L'héritier du chaos aux éditions Mango, et un essai sur l'agent 007, Les nombreuses vies de James Bond au Mouton électrique. Et puis sa première bande dessinée, Sous la montagne, est parue en 2008 chez Soleil. Voilà, ses nouvelles ont figuré au sommaire de plusieurs revues de SF et de fantastique françaises, et il travaille actuellement sur une série en BD qui réinvente l'histoire du XXe siècle, La section infinie, et sur une série pour les éditions du Lombard, Le Comité. Ouais, Le Comité. Et tu tiens également une chronique régulière sur les nouvelles de science-fiction dans la revue Galaxy. Ensuite, on a donc encore plus à ma gauche Dominique de Canales, donc passionné de BD j'ai repris un peu une biographie que j'ai trouvée, donc tu me diras. Oh, vas-y, présente-toi.
Ouais, parce que t'as des informations un peu succinctes. Ouais, donc en fait, je suis scénariste de BD à mes heures. Donc j'ai publié deux ouvrages, un chez Glénat et un chez Soleil. Voilà, donc j'essaierai de donner mon point de vue, peut-être pas sur l'histoire de la BD, mais en tout cas peut-être en tant qu'amateur et puis pour avoir mis un peu le pied dans ce milieu-là, quoi.
Tu travailles au Contrée du Jeu aussi, ouais. Au Contrée du Jeu, donc qui tient un stand ici. Voilà. Et puis donc à ma extrême droite, on a donc Amélie Quirion, qui fait partie de l'association Elbakin.net. Donc il y a 30 ans, assistante de communication dans un cinéma ARSC. Donc tu t'occupes plus particulièrement de la programmation jeune public. Voilà. Et puis donc tu as été beaucoup fan de manga durant ton adolescence, et puis tu es passé depuis 2 ans, non, plutôt dans les comics, c'est ça? Voilà. Et donc du coup je voulais la faire participer au débat en tant que fan, ex-fan de manga et puis fan de comics, pour donner un avis aussi sur la question. Donc pour commencer, je vais peut-être passer la parole à Marcus pour faire peut-être un état de comment les comics sont apparus en France, quelles en ont été les sources d'inspiration, les repères historiques, et puis on verra après comment ça s'articule. Tiens.
Donc en France, les comics sont apparus avec les éditions Lug. Enfin, ils sont parus avant, mais disons qu'on a vraiment commencé à les découvrir avec les éditions Lug en 1969. 1969, c'est l'apparition de Fantasque, qui va présenter les aventures des Fantastiques, du Surfeur d'Argent et de l'Araignée. Ce sont les premiers super-héros Marvel qu'il y a eu en France. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Juste avant, France ce soir a publié en BD quotidienne les trois premiers numéros des Fantastiques et l'anthologie des éditions Planète, les chefs-d'œuvre de la bande dessinée, avait déjà présenté des extraits de plusieurs séries de Marvel et de DC. Il existait donc à côté de Lug d'autres éditeurs, mais qui n'avaient pas vraiment émergé, ou du moins qu'on connaissait, mais sans plus. Il y avait les éditions Artima à Reddit, donc Artima qui est racheté au bout d'un moment par les presses de la cité, qui devient Reddit, donc qui publiait déjà des super-héros, en particulier ceux de chez DC. On voyait Green Lantern, Green Arrow, tous ces personnages ayant leur nom francisé, c'est-à-dire on avait la Flèche Verte, la Lanterne Verte, on avait pour Wonder Woman la Femme Merveille, Robin, qui était apparu dans quelques histoires, devenait le Garçon Merveille, et Superman même est apparu quelquefois sous le titre de Surhomme. Donc c'était assez mal parti. Et les éditions Lug arrivent, lancent le titre Fantasque, et c'est un succès presque immédiat. C'est déjà un titre de kiosque qui paraît en couleur, alors que presque toutes les publications de kiosque jusqu'ici étaient en noir et blanc, et dans un format déjà légèrement plus grand que la plupart des publications de kiosque. Mais au bout de quelques mois, la censure intervient. Il faut savoir qu'en France, tout ce qui paraît en presse est sous la loi de 1949 pour les publications pour la jeunesse. Donc, toute bande dessinée paraissant en kiosque est soumise à cette loi et doit donc atténuer la violence, faire disparaître les armes. Pas nécessairement toutes, mais déjà, il n'y a pas d'armes en couverture. Et souvent, sur les vignettes, il faut que s'il y en a trop, on doit engommer une partie. C'est-à-dire que vous avez un personnage qui a en face de lui, admettons, un sac méchant qui braque tous un revolver sur lui. Sur la vignette française, il n'y a plus que deux revolvers qui sont braqués sur lui. Donc, au bout de sept numéros, Fantasque est obligé de s'arrêter. La censure ayant trouvé que les couleurs étaient trop violentes et que souvent les personnages, entre autres, dans les Fantastiques dessinés par Jack Kirby, sont beaucoup trop monstrueux. Donc le titre s'arrête au numéro 7 et les éditions Lug redémarrent tout de suite derrière avec deux titres, Strange qui va devenir le titre mythique en France et Marvel. Donc ça va commencer en petit format en bichromie. C'est un moyen déjà de solutionner ce problème des couleurs qui sont jugées trop violentes. Et on fait au bout de quelques numéros, quasiment au bout d'un an de parution, les éditions Lug se disent bon, on va revenir dans un format plus grand, proche du format comics, et on va réintroduire la couleur. Et Marvel s'arrête, on fait tout de suite derrière, au numéro 13. Bon, vous avez peut-être vu, il y a un document qui est sorti récemment, Marvel 14. Marvel 14, en fait, n'a jamais existé. Mais effectivement, il avait été maquetté. Il est représenté au dos de la couverture du numéro 13, ce qui fait que beaucoup de collectionneurs, pendant très longtemps, ont cherché ce fameux numéro 14. Et donc, ce numéro s'arrête, et on continue donc chez Lug, sur la lancée de Strange uniquement. Donc ça, c'est à peu près le démarrage des super-héros en France. Et de la BD, on peut dire il y avait eu quelques expériences de BD américaine. Sage Édition publiait Batman et Superman, mais dans une édition qui parfois n'était pas bien géniale, c'est-à-dire qu'avec un parler qui était proche parfois du Petit Nègre, et puis deux planches couleur, deux planches noir et blanc. Il publiait aussi Tarzan en BD américaine, et il y avait eu Flash Gordon.
Voilà, non, mais bien avant.
Mais ouais, bien avant, donc été... en fait, la première apparition. Non, mais justement, j'allais y revenir. Donc ça, c'est, on peut dire, le moment où les gens commencent à vraiment la connaître. Mais bien avant, dans les années 40, on commence à publier donc, dans des journaux, très souvent, donc l'Astucieux, l'As, Cocardie, Cocardie était surtout orienté sur la BD française, Tarzan. Donc c'était des journaux en très grand format, un peu format tabloïd, certains qui étaient quasiment format quotidien. Et là, on va présenter tous les classiques des BD de quotidien en science-fiction. Donc on voit arriver, bien sûr, Guy Leclerc, Flash Gordon aux États-Unis. Il y aura Luc Bradford.
Bill Bradford.
Oui, Bill Bradford, donc dans la version originale. Il y aura aussi, bien sûr, Mandrake, il y aura le fantôme du Bengale, qui sont quand même, en fait, Mandrake et le fantôme du Bengale, qui apparaissent aux États-Unis au début des années 30. En 1938, aux États-Unis, il y a Superman qui apparaît, et en 1939, il y a Batman. En 1940, c'est la création après de personnages comme Captain America, Wonder Woman, et puis vont se développer toute une vague de super-héros. Va suivre la Justice Society, donc la société de justice, qui est la première vraie équipe. Bon, au début, c'est pas vraiment une équipe, parce qu'en fait, on suit souvent sur la page d'introduction, on voit toute l'équipe, et tout de suite derrière, on suit individuellement chaque personnage qui vit une aventure, et ils se retrouvent à la fin du numéro, vers la fin de l'histoire, ils se retrouvent tous ensemble de nouveau. Donc on sait qu'il existe une société de justice, quoi, un groupe de super-héros, mais voilà, ils vivent quand même chacun des aventures indépendantes. Jusqu'à un moment où on va réussir quand même à les intégrer tous ensemble dans une histoire, et à partir de là, bon, ça va se développer.
Ce qu'il y a de marrant dans l'importation des comics américains, c'est que... pendant la guerre, il y a eu interruption de l'importation, quoi, de BD américaine. Mm-hmm. Et y a les bandes qui ont continué, mais par des créateurs européens.
Oui, c'est
quoi.
Ça.
Il y a par exemple eu Flash Gordon qui a été continué par Edgar P. Jacobs, en fait. C'était un de ses premiers boulots. Il y a Fellini, le cinéaste, qui a scénarisé du Flash Gordon à l'époque en Italie. Oui. Voilà.
Et donc les BD américaines étant interdites d'importation en France, effectivement, Jacobs termine une aventure de Flash Gordon qui était en cours, peut-être qu'il est clair. Et on voit comme ça Albert Uderzo qui va dessiner des aventures de Captain Marvel Junior dans le magazine belge Bravo. C'est assez étonnant parce que ça ressemble à du Captain Marvel à l'américaine. À peu près même style de mise en page pour l'époque et même traitement du personnage.
Moi, ce que je trouvais intéressant par rapport au repère historique, donc moi je m'étais dans ma tête, pour ce qui est comics, j'avais Stan Lee en tête, bah, effectivement Jack Kirby, et donc la discussion qu'on a vue était intéressante, c'est qu'en fait Stan Lee, il a profité de l'opportunité pour s'approprier un peu c'est tout ça. Un univers, et en fait...
C'est un très bon gars en public relations, je crois, plus
oui,
qu'en... Voilà, il sait très bien faire sa pub, il s'est autoproclamé le Shakespeare du XXe siècle, quoi. Voilà. Mm-hmm. Donc Kirby avait les idées, lui il rajoutait des dialogues et il y avait la tête de Stan Lee en haut des magasins.